Auditrices, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonjour. Vous êtes bien calés, prêtes à écouter Conseil et démaillage, le droit pour tous. Et la Radio Arc-en-Ciel a mis cette émission à votre disposition afin de vous aider dans vos démarches administratives, juridiques et de tout problème que vous rencontrez ou alors vous êtes dans vos démarches au quotidien. Aujourd'hui, du moins, je vais quand même vous rappeler le numéro de téléphone fixe 02 62 41 66 16 et le portable 06 92 67 73 35. Il est vrai qu'il y a des auditeurs qui ont essayé de nous appeler pendant les émissions précédentes et certainement c'était entre les intermèdes ou les petites pauses et donc ils n'ont pas pu nous avoir. Ils nous ont envoyé un mail pour nous en informer qu'ils avaient appelé pour essayer de nous avoir, mais il faut savoir, et d'ailleurs ils le disent qu'ils comprennent que une heure c'est peu, et donc comme j'enchaîne dans toutes dans tous les points qui intéressent tout le monde, alors ils sont tous au taquet et avec le stylo, bien sûr, et un bout de papier au cas où il y avait un numéro à noter ou une adresse, ils n'ont pas pu m'avoir. En tout état de cause, ces personnes m'ont adressé leur numéro de téléphone et donc je reviens vers eux si je ne l'ai pas encore fait ou alors par mail, on échange, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça nous fera plaisir, bien sûr, si vous nous appelez en direct pour nous dire combien vous avez été satisfait de nos services comme vous le faites d'habitude par mail. Mais c'est assez difficile en une heure de temps de prendre tous les appels. Voilà, je remercie, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à tous les auditeurs et auditrices, fidèles ou non, puisqu'on m'a fait un retour par texto et parfois par mail que j'ai oublié un tel. Eh bien non, je fais un clin d'œil très fort surtout à ceux qui, tous les jeudis matins avant l'émission, m'adresse un petit message, un petit smiley d'encouragement. Ça me fait très plaisir. Et puis, bien sûr, nos fidèles de Saint-Paul et de toute l'île de Saint-Denis, bien sûr, les ouvriers qui nous écoutent. Il paraît qu'il y en a plein là qui nous écoutent. Alors, tant mieux. Il y a beaucoup de choses à vous annoncer dans Conseil et démaillage, le droit pour tous. Alors, ne soyez pas vexés si je n'ai pas dit le nom d'un tel. Je vous fais un clin d'œil à tous les fidèles ou non, et à tous ceux qui nous rejoignent dans Conseil et démaillage de Radio Arc-en-Ciel.
C'est où que mi aime la choisir à où? Pour mon chiquier, pas où l'amour qui vous la donne à moi. Dans où manière ma vie qui vous le sensé. Oh, t'es qu'à fouin, tout le monde l'a dit moins qu'on est notre copain. C'est où que m'y aime mal à choisir à où. Pour mon chiquier, pas où l'amour qui vous la donne à moi. Dans où manière ma vie qui vous le sensé. Oh, t'es qu'à fouin, quand les fois tu manques à les chagrins. Côté mon cafouine, mon chéri, mon doudou, l'amour est trop doux. Côté mon cafouine, mon chéri, mon doudou, mon cœur est beau. Côté mon cafouine, mon chéri, mon doudou, l'amour est trop doux. Côté mon cafouine, mon chéri, mon doudou, mon cœur est beau.
Alors voilà, donc nous commençons par vous annoncer tous les points que je vais aborder avec vous et vous donner des informations. Elles vont être très courtes, comme je le répète, c'est pas grave, je suis là pour ça. Eh bien, pour vous dire que je condense, c'est-à-dire je dis très peu je développe très peu le sujet pour que nous ayons le temps d'arriver jusqu'au bout. D'accord? Alors, le premier point, nous allons parler, le gouvernement rassemble 19 nouvelles mesures contre la pauvreté. Alors, j'aime bien annoncer les nouvelles. Les bonnes ou les mauvaises, c'est pas grave. Il y en a souvent beaucoup de bonnes. Mais j'annonce, puisque après, vous savez bien qu'après, il y a des textes et des décrets qui doivent sortir, etc. Et donc, vous êtes déjà au courant. Et quand vous avez droit à quelque chose, eh bien, vous allez voir que dans certains points, vous allez vous demander pourquoi je dis des choses comme ça alors que peut-être ça nous intéresse. Eh bien, si, ça va vous intéresser, vous allez voir. Et surtout, si vous avez la possibilité d'avoir un stylo et un bout de papier au cas où, vous auriez à noter quelque chose qui vous intéresse. En deuxième point, la fonction publique. une prime de précarité pour les agents en CDD. Alors, quand je parle de fonction publique, une prime de précarité pour les agents en CDD, ça concerne toutes les fonctions publiques, c'est-à-dire la fonction publique territoriale, ceux qui travaillent dans les communes, départements, régions, la fonction publique de l'État, hein, et la fonction publique hospitalière. Il y a une prime de précarité qui n'était pas d'actualité avant. Maintenant, c'est donné une prime, c'est applicable une prime de précarité, hein, en CDD. Je vous donnerai les conditions dans un instant, mais en bref. D'accord? Surtout, je pense à tous ceux qui ont été, dont leurs contrats ont pris fin, etc. S'ils rentrent dans les conditions, bien sûr, parce qu'il y a un minimum, ou du moins le temps de, comment je veux dire, du contrat. Hein, je vais vous donner la durée, pas le temps, la durée du contrat. Je vais vous le donner et vous la donner. Et bien sûr, je vous donnerai les détails dans un instant. Ensuite, nous parlons un petit mot sur le handicap. Une indemnité de 600 euros par an pour les AESH référents. Vous savez, c'est quoi? C'est les aides, hein? Les aidants, ceux qui aident les personnes en situation de handicap. Je vais vous développer les affaires dans un instant, cette affaire-là. Un décret et un arrêté, il y a deux, il y a un décret et un arrêté paru au journal officiel du 24 octobre, officialisant la création d'une indemnité de 600 euros brut par an pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap exerçant la fonction de référent. Vous savez bien, il y a des gens qui accompagnent, il y a des employés ou du moins des contractuels ou des agents qui accompagnent des élèves et que ça s'appelle, et c'est un emploi assez spécifique, hein, l'AESH, et qui exercent les fonctions de référent. D'accord? Donc il y a une prime, une indemnité pour eux. Hein. Alors, il y a l'allocation chômage. Je dirais un mot parce que le Premier ministre a annoncé aux partenaires sociaux, compte tenu de l'aggravation de la crise sanitaire, économique et sociale, un nouveau report de 3 mois de la réforme d'assurance chômage. Parce que je vous avais dit que l'assurance chômage, je vous avais déjà annoncé tout ce que j'avais vu, eh bien, devait être réformée et qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Eh bien, le Premier ministre Jean Castex a dit que il reporte encore compte tenu de l'aggravation de la crise sanitaire, eh bien, c'est reporté encore ce sujet. Alors, en sixième point, il y aura ma prime Rénov. Je vous en ai parlé jeudi dernier de ma prime Rénov. De l'argent qui nous sont versés, une prime, pour rénover les logements. Il y a la prime Rénov énergétique. Et il y a la prime Rénov aussi pour les particuliers, mais aussi ceux qui sont en copropriétaires. Hein. La taxe d'habitation, devez-vous payer en 2020? Il y a la contribution à l'audiovisuel public. Ce qu'il faut savoir, l'audiovisuel, vous connaissez ce que c'est la télé. Hein. La contribution à l'audiovisuel public, c'est les redevances télévision. La fragilité financière, une offre bancaire spécifique, justement. Pour deux personnes, je crois deux auditeurs qui m'ont déjà adressé un mail pour me parler de leurs soucis financiers, une entreprise et l'autre, c'est aussi deux entreprises alors. Hein. Eh bien là, je vais parler d'offres bancaires spécifiques pour les fragilités, pour fragilité financière, c'est-à-dire les gens qui sont fragiles au niveau de leur portefeuille, de leur porte-monnaie. En dixième point, nous aurons le BTP, information nécessaire de la CCP. PD en cas de monétisation des jours de repos RH. Hein, monétisation, ça veut dire qu'on paye les jours de repos. Dans le BTP, jusqu'au 31 décembre 2020, les salariés ont la possibilité de renoncer à des jours de repos et de bénéficier d'une indemnité précarité, une indemnité pécuniaire en contrepartie, c'est-à-dire une indemnité pécuniaire, c'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent en contrepartie. Dans le BTP, cette renonciation doit donner lieu à une information de la caisse des congés payés. Donc, si les employés renoncent, eh bien, ou du moins l'employeur ou quoi, eh bien, cette information doit être remontée à la caisse des congés payés. En 11e point, alors, salaire des professeurs. Le ministère propose une prime informatique de 150 euros par an pour les professeurs. En ce qui concerne les urgences, je vous avais annoncé jeudi dernier, le nouveau forfait payant pour les patients validé par l'Assemblée. Hein, donc, ça y est, c'est fait, c'est validé. Hein. En 13e point, la preuve, les éléments extraits d'un Facebook privé peuvent justifier du licenciement. La Cour de cassation reconnaît qu'un employeur puisse utiliser des contenus publiés sur un compte Facebook privé. Par exemple, des photos pour un licenciement disciplinaire. Alors, faites bien attention sur votre site Facebook. Ne faites pas n'importe quoi. Alors ça, j'ai déjà dit, donc je ne reviendrai pas dessus. Je dis simplement ce qui a été décidé, ce qui a été prononcé par la Cour de cassation. Hein. Ensuite, nous avons la prévoyance obsèque, la prime d'activité 2020 vaudroit, hein, je vais dire en gros, et le nouveau report de 3 mois de la réforme d'assurance chômage. Assurance chômage, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc je le répète, hein, j'ai dû faire un petit ricochet. Voilà pour ce qui concerne tous ces points que je vais aborder avec vous, mais succinctement. Alors, dans un premier point, nous allons parler de ce que le gouvernement prévoit. Hein. Le gouvernement rassemble 19 nouvelles mesures contre la pauvreté. Et parmi celles-ci, comme nous relate la presse, hein, que nous avons entendu ici et là dans la presse de l'audiovisuel ou alors des radios locales ou autres, eh bien, il y a l'insertion, aide au logement. Jean Castex dévoile de nouvelles mesures contre la pauvreté. Le Premier ministre a présenté samedi passé la nouvelle stratégie du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Parmi les mesures figurent de nouveaux postes dans l'insertion par l'activité économique, le développement des parcours emploi compétences ainsi que les aides au logement. Nous pouvons d'ailleurs retrouver ces informations dans une revue hein, que nous connaissons tous. Alors, en déplacement samedi dans un centre Emmaüs, pour ne pas citer, eh bien, le Premier ministre a dévoilé une série de mesures destinées à prévenir la bascule dans la pauvreté et à sortir de cette situation pour ceux qui auraient déjà basculé en les emmenant vers l'emploi et le logement. Ces mesures doivent permettre aux plus précaires de surmonter le choc de la crise économique provoquée par la crise sanitaire. Elles visent principalement à soutenir l'insertion dans l'emploi et l'accès au logement. En revanche, contrairement à ce que réclament les associations, eh bien, le ministre n'a pas annoncé de revalorisation des minima sociaux. Donc, il y a 30 000 postes supplémentaires, hein, après avoir rappelé les actions déjà prises hein, par l'exécutif ces dernières semaines, eh ben, telles que l'aide exceptionnelle de 150 euros, plus de 100 euros par enfant, pour les allocations, le RSA et APL, le Premier ministre a annoncé que 30 000 nouveaux postes seront créés d'ici 2022 dans les structures d'insertion par l'activité économique, le IAE. Hein. Et donc, l'IAE permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi de bénéficier d'un accompagnement renforcé qui doit faciliter leur insertion professionnelle. L'État va également prendre en charge 80% du coût des contrats PEC, parcours emploi compétences, dans les quartiers de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale, au lieu de 50%. Avant, il remboursait 80%, maintenant 50%. Maintenant, l'État va prendre en charge 80% du coût du contrat PEC. Alors, pour ce qui concerne la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale, je vais vous revenir là-dessus, bien sûr, jeudi prochain pour vous dire quelles sont les communes concernées, les départements, etc., puisque, bien sûr, toutes ne sont pas concernées. Alors, il y a aussi les aides d'Action Logement redynamisées. J'avais annoncé jeudi dernier. Mais par contre, il n'y a pas de coup de pouce au RSA. Hein, les associations, pas convaincues, bien sûr, par cette annonce. Hein, voilà ce qui a été décidé pour ce qui concerne les points qui nous concernent directement, en tout cas, des aides au logement et l'insertion, hein, pour ce qui concerne les points de ces nouvelles mesures. Dans nos émissions précédentes, dans vos émissions, puisque c'est vous, c'est votre émission à vous, eh bien, vous pouvez aller réécouter en podcast, il n'y a pas de souci sur ce qui concerne les 19 nouvelles mesures contre la pauvreté. Je l'avais annoncé, hein, un point par point. Ensuite, pour la fonction publique, une prime de précarité. Une prime de précarité dans la fonction publique dès janvier 2021. Donc, c'est pour bientôt. Cette prime de précarité devrait être versée aux agents en fin de CDD, contrat à durée déterminée. Vous savez bien, c'est un contrat qui ne dure pas, qui est fini. Donc, ce contrat CDD. Toutefois, le contrat doit être inférieur ou égal à un an. C'est ce que je vous annonçais au départ tout à l'heure en préambule, que j'allais vous donner la durée du contrat. Eh bien, le contrat doit être inférieur ou égal à un an. Inférieur, c'est-à-dire le contrat doit faire 5 mois, 6 mois, 9 mois, 8 mois, mais ne doit pas dépasser un an. D'accord ? Cette prime couvre aussi bien la fonction publique d'État, territoriale, c'est-à-dire commune, département, région, communauté de communes, et la fonction publique hospitalière, ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux. Je fais quand même une petite parenthèse en disant que j'ai déjà annoncé précédemment que le gouvernement a fait sortir un décret protégeant, apportant une protection justement à tous ceux, pour le reclassement, etc., à tous ceux qui ont été remerciés au niveau de la fonction publique hospitalière. Là-dessus, je ne reviens pas puisque vous pouvez réécouter, mais si vous avez des questions, conseil et démaillage est là pour remettre le point sur l'information dans une émission prochaine. Alors, le montant représentera 10% du salaire brut global versé à l'agent durant la durée du CDD, comprenant les renouvellements. Alors, ça va être une prime assez importante, puisque ça va faire 10% du salaire brut global versé à l'agent durant la durée du CDD, comprenant les renouvellements, c'est-à-dire 10% de tout ce qu'il a touché pendant qu'il a travaillé. Hein? Voilà. Alors, qui pourra bénéficier de cette prime? Je vous l'ai dit, les fonctionnaires en CDD embauchés en remplacement d'un poste agent titulaire pourront bénéficier de la prime. C'est également le cas des fonctionnaires en CDD recrutés lors d'une absence de corps de fonctionnaires. Toutefois, il faut noter que les agents recrutés en CDD dans le cas d'une hausse d'activité saisonnière ne pourront pas bénéficier de la prime de précarité. Je vous l'avais dit, dans les contrats à durée déterminée, il y a beaucoup d'articles qui permettent d'embaucher un CDD, c'est-à-dire, par exemple, pour remplacer un fonctionnaire en disponibilité, en congé de maladie, un surcroît de travail, etc. Eh bien là, si c'est pour le cas d'une hausse d'activité saisonnière, si vous avez été embauché dans ce cas-là, eh bien là, il n'y aura pas de prime de précarité. Hein. En tout cas, si vous avez des questions à poser, conseil et démaillage est là pour vous répondre. Si vous vous rentrez dans le cas ou pas, bien sûr, vous avez votre DRH, hein, vous avez votre DRH, vous avez votre administration propre. Mais si jamais vous avez un doute avant d'aller demander ou bien vous voulez avoir des explications concernant cette prime et pour voir si vous y avez droit ou pas, mais je pense que vos DRH sont là pour vous le dire, eh bien, cette prime de précarité, il faut avoir à l'œil, quoi, puisque c'est à compter du 1er janvier 2021. D'accord ? Il y a d'autres catégories d'agents, hein, ne pourront pas prétendre à la prime, comme ceux dont le contrat est renouvelé immédiatement ou qui entament un nouveau CDD ou un CDI dans le même versant de la fonction publique. C'est-à-dire que dès que la personne a fini son CDD, eh bien, il a enchaîné dans un CDI dans la commune ou le département, la région, etc. Eh bien, lui, par exemple, sa fin de CDD, il a enchaîné dans un CDI qui est plus intéressant d'ailleurs, il n'a pas le droit à la prime. Hein. De plus, un plafond de rémunération a été établi, 3078 euros bruts par mois afin de profiter de l'indemnité. Hein? Il y a un plafond, il ne faut pas dépasser 3078 euros. Cette prime sera donc en priorité donnée aux contrats les plus précaires, comme l'indique le rapport de présentation du projet de décret. Voilà. Eh bien, pour ce qui concerne cette nouvelle, moi j'aime bien annoncer, bon, parfois on ne gagne pas, hein, mais parfois on y gagne. Voilà, moi j'annonce souvent des nouvelles où on a des primes et tout ça. Alors, je vais faire une petite pause. Nous allons passer après au nouveau contrat aidé, là. Je crois que c'est ça qu'on va aller dessus. Le 3, nouveau contrat aidé, parcours emploi compétences. En fait, c'est parce que tout à l'heure, j'avais annoncé que le gouvernement devait aider à 80% le emploi en contrat aidé emploi compétences. Parce que j'ai eu des interrogations concernant ces emplois-là. Il y en a qui croient que c'est réservé qu'aux jeunes. Alors que le nouveau contrat parcours emploi compétences ne concerne pas que les jeunes. Je vais vous donner le détail après une petite pause. Alors, le parcours emploi compétences, le PEC, hein, vous savez bien, le fameux PEC, le nouveau contrat aidé. Conseiller démaillage avait déjà développé cette affaire de contrat aidé à l'époque où ce n'était même pas encore mis en place. Conseiller démaillage, vous avez expliqué ce qu'est le parcours emploi compétences qui remplaçait le contrat aidé. Bon, moi, j'avais donné mon avis à l'époque, je suis toujours du même avis, que c'est mieux que les contrats aidés d'avant, les contrats parcours emploi compétences. Alors, qu'est-ce que c'est le parcours emploi compétences? Depuis le 1er janvier 2018, l'ensemble des employeurs du secteur non marchand peuvent conclure un PEC, contrat de droit privé, réglementé par le Code du travail, sous réserve d'offrir un poste et un environnement de travail propice à un parcours d'insertion, d'accompagner au quotidien le salarié et de faciliter l'accès à une formation qualifiante. D'une durée hebdomadaire de 20 heures minimum, c'est-à-dire le moins possible, le minimum, le plus petit peu, c'est 20 heures. Hein. Ce contrat de travail peut conclure par un temps plein ou un temps partiel. La rémunération du salarié ne peut être inférieure au SMIC horaire. D'accord? D'ailleurs, à l'époque, c'était à 9,88 €. Il faut aller voir à la date d'aujourd'hui, c'est à combien l'heure. Quels employeurs sont concernés? Les employeurs territoriaux éligibles sont territoriaux, communes, départements, régions, hein, les collectivités territoriales, hein, régions, départements, communes, les EPCI, les établissements publics, hein, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, mais il y a des conditions pour cela. Eh bien, à qui s'adresse-t-il? C'est pour qui ça, ce BANPEC-là? Le PEC est ouvert à toute personne éloignée du marché du travail et rencontrant des difficultés sociales, et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les travailleurs handicapés, les résidents des quartiers prioritaires, les seniors et les jeunes. Alors vous voyez, hein, les résidents quartiers prioritaires, là, ça jeudi prochain je viens dessus parce que pour savoir quels sont les quartiers prioritaires à La Réunion. Voilà, donc, eh bien, les PEC ne sont pas que pour les jeunes. Il y en a qui se plaignent et se disent « le gouvernement pense qu'aux jeunes ». Non, le PEC concerne tout le monde, je vous l'ai dit, hein, pour toutes les personnes éloignées du marché du travail et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, notamment les demandeurs d'emploi de longue durée, les travailleurs handicapés, les résidents des quartiers prioritaires, les seniors et les jeunes. D'accord ? Hein, chers auditeurs, auditrices, je m'adresse à une auditrice en particulier qui avait posé la question. Alors, pour quelle durée ce PEC? La durée du contrat en PEC est de 9 à 12 mois maximum, renouvelable pour une durée de 6 mois minimum et 12 mois maximum. D'accord? À titre dérogatoire, il fait une dérogation, c'est-à-dire la durée du contrat peut être prolongée jusqu'à 5 ans. Pour un salarié en difficulté d'insertion ayant 50 ans ou plus à la fin du 24e mois ou jusqu'à sa retraite s'il a 58 ans ou plus. Alors c'est pareil là, je m'adresse toujours à cette personne-là qui se plaignait de dire que le contrat PEC est pour les jeunes. Non, au contraire, on peut aller jusqu'à 5 ans, prolonger jusqu'à 5 ans pour cette catégorie de salariés, c'est les salariés en difficulté d'insertion, ayant 50 ans ou plus à la fin du 24e mois ou jusqu'à la retraite s'il a 58 ans ou plus. À titre dérogatoire, pareil, peut-être prolongé à 5 ans, un salarié en CAE devant achever une action de formation en cours. Toute personne reconnue travailleur handicapé également, 5 ans. Le renouvellement n'est ni prioritaire ni systématique. Il est conditionné à l'évaluation par le prescripteur et son utilité pour le bénéficiaire, autorisé au vu des nouveaux engagements que prend l'employeur, et ce, uniquement si les engagements antérieurs ont été respectés. Hein? Après, bien sûr, il y a des avantages pour les employeurs, ça je ne vais pas les développer, puisque les avantages pour les employeurs, ça ils le savent, ils ont leur DRH, ils ont leur service du personnel, mais moi, je tenais à vous donner les explications pour ce qui vous concerne directement, surtout que les gens qui ne comprennent pas que le nouveau contrat aidé parcours PEC est à destination aussi pour les personnes handicapées, pour les personnes en difficulté d'insertion, les personnes âgées, etc. Hein? Donc, je vous le précise et je vous le redis, conseil et démaillage est là de toute façon pour vous éclairer, vous donner les informations fiables que je retire de sites officiels et des informations et des textes de loi qui sont publiés. D'accord? Alors, voilà, conseil et démaillage qui vous a donné des informations claires sur le nouveau contrat parcours emploi compétences, le PEC. Alors voilà, là il y a un décret, comme je vous le disais, hein, je vous donne toujours des informations fiables et récentes, hein, puisqu'il y a un décret qui a été publié du 23 octobre 2020. Hein, eh bien, je vous donne portant la création de l'indemnité de fonction particulière allouée aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent. Hein, vous savez bien. C'est ce qui est prévu par l'article L 917-1 du Code de l'éducation. Alors, qui sont concernés par cette prime? Le public concerné, ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant les missions de référent, ce qui est prévu par l'article du Code de l'éducation que je viens vous donner. Alors, quel est son objet? C'est pour indemniser les missions de référent exercées par les accompagnants des élèves en situation de handicap. Alors, ça rentre en vigueur, quand est-ce que ça rentre en vigueur, c'est-à-dire quand est-ce que c'est applicable? Eh bien, le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, hein, donc il a été publié le 23 octobre, eh bien déjà le 24 octobre, il est d'application. Alors, le décret permet l'indemnisation des accompagnants des élèves en situation de handicap, exerçant les missions de référent, d'accord? Voilà pour une nouvelle concernant cette prime, pour les accompagnants des élèves en situation de handicap. Alors, ma prime rénove, je tiens à répéter parce que souvent les gens ne sont pas au courant. Hein, la prime rénove pour la rénovation énergétique. Qu'est-ce que c'est la prime rénove? L'année ça a été lancé au 1er janvier 2020. Ma prime rénove remplace le crédit d'impôt pour la transition énergétique, le CITE. Je vous l'avais dit ça fait un moment déjà dans une émission que. C'est pour ça que je dis toujours, je vous l'avais dit, puisque on suit pas à pas tout ce qui sort pour vous. Eh bien, le CITE, on vous avait déjà dit comment vous pouvez faire pour obtenir cette prime. Et aujourd'hui, c'est remplacé par ma prime rénov. Alors, cette prime rénov remplace justement ce CITE et puis les aides de l'Agence nationale de l'habitat, c'est-à-dire l'ANA. Vous connaissez ça, hein, l'habitat mieux agilité. Alors, et donc, le dispositif est renforcé au 1er octobre 2020, déjà. MaPrimeRénov est désormais accessible à tous les propriétaires et à tous les copropriétaires. Alors, comme j'ai annoncé tout ça jeudi dernier, je ne vais pas redévelopper tout ça, hein, mais je vais dire quand même qui peut en bénéficier. Jusqu'à présent réservé aux propriétaires occupants aux revenus modestes, MaPrimeRénov est désormais ouverte à l'ensemble des propriétaires depuis le 1er octobre 2020. Et ce, quels que soient vos revenus, que vous occupiez votre logement ou que vous le mettiez en location. Hein, MaPrimeRénov est aussi accessible aux copropriétés pour les travaux dans les parties communes. Hein. Après, il y a aussi des spécificités pour MaPrimeRénov copropriété. Il y a une aide financière accrue. Hein. Alors donc, n'oubliez pas que Conseiller Démaillage est là pour vous donner des explications un peu plus approfondies et que même s'il faut répéter, ben on le répète ou alors vous réécoutez l'émission samedi à 16h et ben sinon vous allez sur Internet pour écouter en podcast. Alors nous allons parler aussi de la taxe d'habitation. Comment ça marche ? Alors, la taxe d'habitation, comment ça marche ? La taxe d'habitation a été modifiée par la loi de finances pour 2018. Depuis 2018, elle baisse progressivement pour 80% des Français qui ne le payent plus à compter de 2020. Pour les 20% des ménages restants, la suppression de la taxe d'habitation se déploiera jusqu'en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera la taxe d'habitation sur sa redevance principale. D'accord ? Qu'est-ce que la taxe d'habitation ? Vous connaissez, hein ? Comment elle est calculée ? Je peux pas vous développer non plus, hein ? Mais je peux quand même vous dire que jusqu'en 2023, il y aura une suppression progressive, c'est-à-dire ça va au fur et à mesure tous les ménages ne paieront plus la taxe d'habitation, d'accord ? Même s'ils sont plus aisés. Voilà, j'ai déjà développé tout ça et pour ne pas prendre trop de temps sur notre heure, eh bien, je ne vais pas développer ce qu'est une taxe d'habitation. Vous le savez ce que c'est et le mode de calcul. Par contre, si vous voulez, je vais revenir sur le sujet un jeudi si vous me le demandez par mail ou bien par texto. Par contre, je viens sur ce qu'il faut savoir sur la contribution à l'audiovisuel public. Audiovisuel, c'est télévision. Les détenteurs de télévision doivent s'acquitter de la contribution à l'audiovisuel public, ex-redevance télé. Avant, ils appellent ça redevance télé. Quel est son montant ? Alors, comment la déclarer, le payer et quelles sont les exonérations possibles ? La contribution à l'audiovisuel public, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la contribution de l'audiovisuel public, anciennement appelée redevance audiovisuelle ou télé, est une taxe liée à la possession d'un poste de télévision. Elle sert à financer les antennes publiques de radiodiffusion et de télévision. Par exemple, France Télévisions, RT France, Radio France, RFO, RFI, Institut National, enfin bref. Elle est reversée aux partenaires audiovisuels par l'administration fiscale après paiement par le redevable. Qui est redevable de la contribution à l'audiovisuel public? Eh bien, la contribution à l'audiovisuel public est due par les particuliers qui sont redevables de la taxe d'habitation et dont le domicile est équipé d'un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition au titre de laquelle la taxe est due. Alors, je fais quand même un petit astérix pour ceux qui n'ont pas de télé. Alors, pour ceux qui n'ont pas de télévision, vous devez cocher une case sur votre fiche d'imposition, hein, quand vous allez la remplir. Eh bien, si vous n'avez pas de télévision, on vous taxera pas. D'accord? Mais c'est rare quand même à la date d'aujourd'hui qu'on n'ait pas de télévision. Mais je sais, de téléviseur, mais je sais que certains, ils utilisent que l'ordinateur, donc ils n'ont pas de télé. Alors pour cela, il faut savoir qu'ils ont quelque chose, une case à cocher pour qu'ils ne payent plus la redevance. Et si vous avez besoin des explications, n'oubliez pas que le conseiller d'émaillage est là pour vous aider. La contribution à l'audiovisuel public est une contribution unique. Elle est payée qu'une seule fois par foyer par le redevable de la taxe d'habitation, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus, le nombre de cohabitants, le nombre de résidences principales ou secondaires, le propriétaire du téléviseur. D'accord? Alors donc, vous avez une maison, vous avez quatre télévisions, vous ne payez qu'une seule fois, ça vous le savez. Alors, quel est le matériel concerné par la contribution de l'audiovisuel public? La contribution à l'audiovisuel s'applique au téléviseur et au dispositif assimilé à un récepteur de télévision. Un dispositif assimilé est un ensemble de matériel connecté entre eux ou sans fil permettant de recevoir la télévision. Attention, hein, pas besoin de jouer au malin pour ne pas payer la télévision, faire autre chose, hein, parce qu'un dispositif assimilé à un ensemble de matériel connecté entre eux ou sans fil permet de recevoir la télévision. Il peut s'agir, par exemple, d'un vidéoprojecteur, d'un lecteur ou un lecteur enregistreur de DVD lorsqu'ils sont connectés à un écran. Les ordinateurs, par contre, n'en font pas partie des équipements assimilés. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des ordinateurs et vous écoutez votre télé par ordinateur, là, vous ne payez pas la taxe de l'audiovisuel. D'accord? Alors, quel est le montant de la contribution de l'audiovisuel public? Eh bien, en 2020, les montants de la redevance sont les suivants. 138 euros en métropole. Et là, créole, il veut comme la métropole. Eh bien, 138 en métropole et 88 euros dans les DOM. Hein? Souvent, je rigole un peu, moi, quand je vois ça, parce que tout le temps, il dit, hey, on est français, on n'est pas français. Mais après, dès que l'un a fait payer trop, là, il dit, hey, on n'est pas français, nous créole, nous. Ça me fait rire. Mais c'était juste pour faire une petite rigolade entre nous. Hein? Alors, donc, pour dire que la redevance télé est plus chère en métropole, et je vous l'avais dit déjà, hein, il y a le gaz, tout ça, il y a des choses qui sont plus chères en métropole. Et il ne faut pas vouloir faire toujours comme la métropole, c'est mon avis, hein, perso. Alors, comment déclarer et payer la contribution de l'audiovisuel public? Ben, ça, vous le savez, hein, vous n'avez aucune démarche déclarative à réaliser si vous possédez un téléviseur. La contribution de l'audiovisuel public est émise et recouvrée avec la taxe d'habitation sur le même avis d'imposition. Celui-ci comporte un seul tic interbancaire de paiement pour les deux impositions. Donc, la date limite de paiement de la contribution à l'audiovisuel public est alignée sur celle de la taxe d'habitation, c'est-à-dire le 15 novembre ou le 15 octobre, en fonction du rôle dans lequel la taxe d'habitation est émise. Alors donc, si vous ne possédez pas de poste de télévision ou de tout appareil éligible à la contribution à l'audiovisuel public, vous devez l'indiquer à l'administration fiscale. N'oubliez pas, je le répète, et si vous avez besoin de renseignements là-dessus, n'oubliez pas qu'on peut vous le donner des explications. Alors, pour ce qui concerne la contribution de l'audiovisuel public, est-elle mensualisable? Est-ce que vous pouvez payer tous les mois? Oui, vous pouvez payer tous les mois votre contribution à l'audiovisuel. Hein? Il y a des dégrèvements? Oui, il y a des dégrèvements possibles. Dans certains cas, il est possible de bénéficier d'une exonération de contribution de l'audiovisuel public. Eh bien, dans un cas, hein, par exemple, les personnes concernées de taxes d'habitation, les personnes exonérées de taxes d'habitation, sont exonérées de paiement de la contribution de l'audiovisuel public. Cette double exonération concerne les bénéficiaires du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé et, sous certaines conditions, les personnes âgées de 60 ans ou veuves ou installées dans une maison de retraite tout en conservant la jouissance de leur résidence principale. Alors, voyez bien qu'il y a des exonérations possibles. Alors donc, pour ceux qui ont bénéficié de l'exonération de redevance depuis 2005, eh bien, la loi prévoit un dispositif de maintien des droits acquis. Voilà. Pour toutes ces questions ou ces interrogations que vous avez sur la redevance publique qui peut être exonérée, c'est-à-dire ils ne payent pas, eh bien, Conseil et démaillage de Radio Arc-en-Ciel est là pour vous répondre et vous donner des explications. Alors, nous allons passer maintenant à la fragilité financière, une offre bancaire spécifique pour vous aider. C'est-à-dire, quelqu'un en fragilité financière veut dire « porte-monnaie est vide ». Alors, depuis 2014, une offre bancaire spécifique est disponible pour les personnes en situation de fragilité financière afin de limiter les frais en cas d'incident de paiement. Hein ? Qu'est-ce qu'une personne en situation de fragilité financière ? Une personne est considérée en situation de fragilité financière si elle est inscrite au fichier central de chèques FCC de la Banque de France pendant plus de 3 mois consécutifs à cause d'un chèque impayé ou d'un retrait de carte bancaire par sa banque. Ou bien si elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement. Vous savez bien, le surendettement, je vous en ai parlé, une personne, un auditeur nous a posé la question, il voulait aller en surendettement, je lui avais donné les détails et lui avais donné un avis aussi là-dessus. Hein. Par ailleurs, les banques disposent de critères, des critères, veut dire des critères, c'est-à-dire d'obligations, enfin comment dire, des critères, c'est pour ça en créole, c'est difficile de dire, hein. Par exemple, en constatant les irrégularités sur le compte et les incidents de paiement survenus pendant 3 mois consécutifs. Il faudrait que j'aille chercher le mot critère en créole, comment il dit, parce que voilà pourquoi conseil d'émaillage n'est pas évident de parler en créole. Par ailleurs, les banques disposent des critères, hein, par exemple, en constatant les irrégularités sur le compte et les incidents de paiement survenus pendant 3 mois consécutifs, eh ben, pour évaluer la situation financière de leurs clients et ainsi caractériser une situation de fragilité financière. C'est-à-dire, à partir de là, il peut classer que cette personne est en situation de fragilité financière. Et comme je vous l'avais annoncé, un décret le 20 juillet 2020 modifie à compter du 1er novembre 2020 les conditions d'appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte. Un client sera alors considéré comme fragile dans le cas suivant. S'il accumule 5 irrégularités ou incidents de paiement au cours d'un même mois et non plus seulement à la suite d'irrégularités de fonctionnement de compte ou d'incidents de paiement répétés pendant 3 mois consécutifs. Si son dossier de surendettement est en cours de traitement et non seulement s'il est en situation de surendettement. Et puis, là a été revue aussi cette affaire-là, s'il est inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France, centralisant les incidents de paiement de chèques. Voilà. Donc, le décret du 20 juillet 2020 a modifié depuis le 1er novembre 2020 les conditions justement pour classer ces personnes en situation de fragilité financière. Alors, en quoi consiste l'offre spécifique pour la clientèle fragile financièrement ? Eh bien, les personnes en situation de fragilité financière peuvent souscrire à une offre spécifique auprès de leur établissement bancaire pour un montant maximum de 3 euros par mois. Cette offre spécifique permet pour les personnes en situation fragile financière de limiter les frais prélevés par la banque en cas d'incident de paiement et d'irrégularité de fonctionnement du compte. Le décret du 30 juin que je vous ai dit tout à l'heure 2014 liste les services bancaires qui doivent être au moins proposés dans le cadre de l'offre bancaire spécifique. La tenue, la fermeture, une carte de paiement autorisation systématique, le dépôt de retrait, 4 virements, 2 chèques de banque par mois, enfin bref, je m'en passe de tout ce qui est prévu. Hein. Les banques ont l'obligation d'identifier au sein de leur clientèle les personnes en situation de fragilité financière et de leur proposer de souscrire à cette offre spécifique. Cependant, si ce n'est pas été le cas, contactez votre conseiller clientèle pour discuter de la possibilité de souscrire à l'offre spécifique pour les personnes fragiles financièrement. D'accord ? Parfois, les auditeurs, là, la peur quand la banque dit « fais ci, fais ça », enfin ça. En général, les clients ont peur de mettre l'argent à la banque, ils ne veulent pas mettre l'argent à la banque. Voilà. Mais là, si ça se trouve, la banque a déjà consulté ou contacté les clients pour leur dire qu'ils peuvent faire ça. Mais comme on est tellement méfiant, on ne veut pas le faire. Eh bien, si c'est pas le cas, eh bien, si ça n'a pas été le cas, il faut contacter votre conseiller qui va vous expliquer la possibilité de souscrire à l'offre spécifique pour les personnes fragiles financièrement. Ça, c'est pour que vous n'ayez pas trop d'agio à payer à la banque. Alors, eh bien, quels sont les avantages de l'offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière? Eh bien, pour les personnes en situation de fragilité financière, la souscription à l'offre spécifique peut avoir plusieurs avantages. Avoir accès à des services bancaires adaptés à un tarif modéré. Le compte fonctionne normalement grâce à la carte de paiement à autorisation systématique les virements, les prélèvements et les chèques de banque. La possibilité de connaître à tout moment le solde du compte en le consultant à distance. Et la possibilité de configurer une alerte par SMS si le solde dépasse un certain seuil. La limitation des frais en cas d'incident de paiement ou d'irrégularité de fonctionnement de compte. Vous voyez, être dans ce cadre-là, on préfère avoir plein d'argent. On préfère avoir un compte que les roses. On appelle ça les roses, mais quand les roses, on a plein d'argent dessus. Mais quand on est dans des difficultés financières, eh bien, avoir un compte comme ça, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Hein? En plus, parallèlement à l'offre spécifique pour les personnes financièrement fragiles, parallèlement, et bien les autres, en plus, à côté. Depuis février 2019, les banques sont tenues d'appliquer un plafond des frais d'incident bancaire pour ces personnes, dans les conditions suivantes. Ça aussi, j'avais déjà annoncé. Hein? 25 euros par mois de frais d'incident bancaire de toute nature pour tous les clients en situation de fragilité financière. Vous voyez, il y a un plafond à ne pas dépasser pour vous ponctuer l'argent, pour vous prendre de l'argent sur votre compte si vous êtes en découvert, d'accord? 20 euros par mois et 200 euros par an, hein, qu'il faut pas qu'ils dépassent, par an de frais d'incident bancaire de toute nature pour les clients ayant souscrit à l'offre spécifique. Il faut noter également qu'à partir du 1er novembre 2020, les frais bancaires seront plafonnés des 5 régularités en incident au cours d'année du mois. Alors, vous voyez que c'est très intéressant d'aller voir votre conseiller qui vous explique tout ce que vous apporte cette inscription d'offres bancaires spécifiques. Hein? Et alors, comment vous faites pour souscrire alors cette offre bancaire spécifique? Ben, si vous êtes en situation de fragilité financière, votre banque a l'obligation de vous proposer cette offre par écrit, quel qu'en soit le support. Dans tous les cas, vous pouvez aussi consulter la rubrique offre groupée de services de votre établissement bancaire ou interroger directement votre conseiller pour avoir plus de détails sur ce type d'offre. Hein? Vous voyez que conseiller d'émaillage vous conseille, mais vous envoie aussi vers les services dédiés, par exemple votre banque, votre conseiller, il va vous donner des explications. Mais si vous avez des difficultés à aller à votre banque ou bien vous voulez poser des questions, conseiller d'émaillage sur Radio Arc-en-Ciel, soit par mail conseil@radioarc-en-ciel.re, soit par texto, hein, sur le numéro de téléphone que je vous ai donné, et je vous donnerai à la fin si j'ai un petit temps, eh bien, vous pouvez, ou alors vous renseigner sur Internet, vous allez avoir toutes les adresses, numéro de téléphone de conseil d'émaillage de Radio Arc-en-Ciel, et je vous réponds. Ne vous inquiétez pas, conseil d'émaillage, Radio Arc-en-Ciel a mis ça en place pour tous les gens en difficulté, qui n'ont pas des moyens, ne vous inquiétez pas, même ceux qui en ont les moyens aussi, mais bon, après, pour ce qui concerne le droit, souvent, ceux qui ont les moyens, ils ont des avocats, ils ont des gens qui les renseignent, etc. Mais conseil d'émaillage, c'est le droit pour tous. Alors donc, tout le monde peut se référer à conseil d'émaillage. Je passe maintenant à salaire des professeurs. Le ministère propose une prime informatique de 150 euros par an. Le ministère de l'Éducation a proposé mardi 13 octobre aux organisations syndicales enseignantes une prime informatique de 150 euros par an dans le cadre de discussions plus générales sur la revalorisation du métier. Hein? Le budget 2021 a été augmenté de 400 millions d'euros, justement, afin d'augmenter les salaires des enseignants français. C'est prévu et donc c'est officialisé. Voilà pour ce qui est de la prime et salaire des professeurs. Le ministère propose une prime informatique de 150 euros. Alors donc voilà, nous avons reçu un petit coup de fil hein, qu'on n'a pas pu passer à l'antenne puisque la personne n'a pas souhaité le faire. Elle a pris les coordonnées et elle va rappeler. Et d'ailleurs, je vais donner le numéro de téléphone et on a fait le nécessaire pour lui donner l'adresse email. Voilà, ben il n'y a pas de souci. Hein, si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous avez la possibilité de toute façon de laisser vos questions et de poser vos questions par téléphone d'ailleurs. Hein. Je comprends souvent, les gens veulent rester discrets. D'ailleurs, je vais juste dire ça vite fait. Il y a une personne qui m'avait dit « je ne peux pas envoyer mon mail pour expliquer mes affaires parce que je ne voulais pas que toute la radio, tous les gens de la radio… » Mais non, conseil et démaillage, c'est une adresse email que je reçois, qui est très confidentielle. Et d'ailleurs, il n'y a pas de nom qui n'est cité. Voilà, c'est très confidentiel. Je le garde pour moi. D'ailleurs, quand j'ai déjà traité le sujet, je ne connais plus. J'ai oublié. Voilà. Quand c'est traité, on me dit merci, c'est fait. Je suis contente du résultat pour vous. Et puis voilà. Hein. Alors n'hésitez pas. Faites comme bon vous semble. Hein. Si vous voulez appeler, vous appelez. Si vous voulez laisser des textos, vous laissez ou un mail. Voilà. Bon, maintenant nous revenons sur l'achat à l'étranger. Hein. Quelle limitation et quelle taxe douanière? Vous savez bien. Il y a beaucoup d'auditeurs qui achètent à l'étranger. Vous faites des achats à l'étranger et vous souhaitez les ramener en France. Alors, vos achats ont été effectués dans l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, à votre retour de France, vous n'avez en principe aucun droit ou taxe à acquitter sur vos achats effectués sur place ou à distance s'ils répondent à l'usage personnel. La taxe sur la valeur ajoutée, les droits d'assises avec deux C, sont en effet acquittés directement dans les pays où vous effectuez vos achats et au taux en vigueur dans celles-ci. Certains produits comme les boissons alcoolisées, le tabac ou les véhicules font l'objet de réglementations spécifiques. Des seuils indicatifs communautaires ont été fixés. Des droits et taxes peuvent être exigés en cas de franchissement du seuil. Alors, là nous venons. Conseil d'émaillage vient surtout sur le cas spécifique de l'outre-mer. Hein, c'est ça surtout. Hein, parce qu'après, l'Union européenne, la France, tout ça. Quoique, la France aussi, parce que nous avons des auditeurs que je fais un clin d'œil, bien sûr. Mais là, je viens sur le cas spécifique de l'outre-mer. Sur le plan fiscal, les départements d'outre-mer sont considérés comme des territoires tiers, même dans leur relation avec la métropole. Les échanges entre chaque DOM et la métropole sont alors à traiter comme des importations ou des exportations. Il est ainsi des Antilles, Martinique, Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte et de la Réunion, voilà, les collectivités d'outre-mer, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont également soumises à des règles spécifiques. Pour les achats en ligne, si vous recevez votre colis dans un DOM, vous aurez à payer de la TVA dès le premier euro, de l'octroi de mer, et de l'octroi de mer régionalisé. Les envois non commerciaux, de particulier à particulier, ne sont soumis à aucune taxation, taxe outre-mer TVA, à leur arrivée dans les DOM, si leur valeur ne dépasse pas 205 euros. C'est-à-dire qu'un y envoie pour l'autre, l'autre y envoie pour l'autre, il ne faut pas que la valeur dépasse 205 euros. Sinon, bien sûr, la douane va ouvrir et puis va taxer. D'accord ? Voilà pour ce qui concerne le cas spécifique outre-mer, pour l'achat des colis, d'accord, de faire venir des affaires à l'étranger. Ensuite, bon, il y a aussi les achats qui ont été effectués en dehors de l'Union européenne, les achats effectués en dessous des seuils de franchise et tout ça. Si vous avez des questions là-dessus, c'est un texto qui m'était adressé pour ce qui concerne les cas spécifiques de l'outre-mer que je vous ai donné. Eh bien, voilà, vous interrogez en plus approfondi si vous en avez besoin. Alors, pour ce qui concerne les urgences, l'urgence hôpital, tu connais, à chaque fois qu'on a quelque chose, tout de suite, quand on n'a pas un médecin, tout ça, on va aux urgences. D'ailleurs, même s'il y a des médecins, quand c'est urgent, on va aux urgences. Je vous avais parlé du forfait payant pour les patients, il y a deux jeudis de ça. Eh bien, ça y est, le nouveau forfait payant pour les patients a été validé par l'Assemblée. Hein, ce forfait de 18 euros remplacera l'actuel ticket modérateur qui laisse à la charge du patient 20% du coût des soins. D'accord? Ce forfait de 18 euros remplacera l'actuel ticket modérateur qui laisse à la charge du patient 20% du coût des soins, hein, malgré de fortes réserves de certains élus. Hein. Acté dans le cadre du projet de budget de la Sécu, vous voyez bien que le budget de la Sécu, lorsque je dis le budget de sécurité sociale Des fois, on se pose des questions, pourquoi je viens dire ça? Eh bien, c'est là-dedans que se décident pas mal de choses pour ce qui concerne notre santé, notamment. Alors là, c'est le forfait patient urgence qui remplaceront l'actuel ticket modérateur. Ça s'appellera forfait patient urgence. Hein, avant, c'était ticket modérateur qui laisse à la charge du patient 20% du coût des soins. Ce reste à charge est de 19 euros en moyenne à l'hôpital public actuellement, mais peut-être très élevé pour certains patients. C'est ce qu'a souligné le rapporteur général Thomas Meynier, évoquant avec cette réforme un enjeu de simplification, hein, une exonération pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Donc c'est une mesure qui ne rapporte rien, a aussi affirmé le ministre de la Santé. Hein. Mais bon, ben, c'est dans l'intérêt, l'intérêt n'est pas financier, mais de mobiliser du personnel à l'hôpital pour faire autre chose que de la facturation. Hein. C'est ce qu'il a assuré, hein. Voilà. Donc, les députés ont ajouté un dispositif, au dispositif une exonération pour les femmes enceintes à compter du sixième mois de grossesse et pour les nouveau-nés durant 30 jours. Les personnes en affection longue durée seront soumises à un forfait réduit, hein, je vous l'avais dit. Par un amendement, le gouvernement a décalé la mise en œuvre de ce nouveau forfait du 1er janvier au 1er septembre 2021. Donc, je vous l'avais annoncé au 1er janvier. Eh bien, non, il y a un report au 1er septembre 2021. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ce qui concerne le forfait des patients validé par l'Assemblée concernant le passage aux urgences. Bon, voilà, notre conseiller de démaillage de Radio Arc-en-Ciel se termine donc. Vous remercions tous. Merci pour votre écoute, votre fidélité, auditrices, auditeurs, à toute notre équipe, hein, nos techniciens notamment, nos techniciens, toute l'équipe hein, qui était avec moi pour vous présenter cette émission Conseil de démaillage de droit pour tous. Eh bien, nous avons le numéro de téléphone fixe 02 62 41 66 16, le téléphone portable 06 92 67 73 35. Et notre adresse postale, c'est au 18 bis rue Montreuil, 97 400 Saint-Denis. Vous pouvez aussi nous écrire si vous ne pouvez pas envoyer un mail ou un texto. Vous avez aussi la possibilité d'adresser votre courrier postal. D'ailleurs, Conseil démaillage de Radio Arc-en-Ciel, la Radio Arc-en-Ciel en elle-même, vous a mis à votre disposition ce téléphone portable, justement parce que les gens n'ont pas les moyens. C'est le 06 92 67 73 35. Vous m'appelez. Si je ne réponds pas, laissez un texto. Et je vous rappelle, ou alors je reviens vers vous sur un email conseil@radioarc-en-ciel.re. Merci, à jeudi prochain, au revoir.